Quelques mots sur la pratique, peut-être quelques éléments pour alimenter l'exploration ou inspirer. Je parlais un peu d'appropriation ou d'identification ce matin. Donc, comment j'ai compris un peu que les choses se passent avec la pratique ici, c'est que, ben, peut-être avec toute une vie. Au moment de la naissance, les choses sont, est-ce qu'on pourrait dire ce mot-là, indifférenciées. Hein? On est comme ça. Et là, nos parents nous apprennent, ou les gens qui s'occupent de nous nous apprennent que tout n'est pas un, que ça, c'est ma main. Il est où le nez de Pascal? Non, ça c'est le nez de maman. Il est où le nez de Pascal? Oui, c'est ça, le nez de Pascal. Puis, tout à coup, ça se clarifie. Ce qui est à moi, pas à moi. Non, ça c'est le jouet d'Élisabeth. Non, à moi. Non, c'est le jouet d'Élisabeth. Rends-lui. Et donc, tranquillement, les choses deviennent plus claires. Hein? On passe d'un stade pré-égotique à un stade égotique. On espère que ça va bien se passer, puis qu'il va avoir un bel ego bien formé, en santé. Bon, puis peut-être qu'on va passer des années à guérir cet ego. Et donc là, il y a un moment où on se retrouve à une retraite de méditation. Et là, on dit, ben, mon amour, t'as bien appris ça, que c'était ton nez, etc. Maintenant, on va pousser un peu plus loin. On va entrer dans un stade transégotique. C'est pas vraiment ton nez. C'est un nez. Il est là, il faut s'en occuper. Oui, il faut le moucher, etc. Mais ce n'est pas exactement ton nez parce qu'un jour, il ne sera plus là. Il appartient à l'univers. C'est quand même toi qui décides qui lui touche ou non, etc. Mais ce n'est pas exactement toi ou à toi. Mais il y a un nez. Ce que vous voyez. Alors, c'est ce qu'on apprend à faire, mais on apprend à faire au troisième niveau, là, si j'utilise le langage qu'on utilise, de façon en expérience directe. On découvre pour soi-même que ce n'est pas exactement moi, mais qu'il y a la peur. En ce moment, elle est vraiment vibrante et vivante, mais ce n'est peut-être pas exactement moi. Le Bouddha semblait dire qu'il y a quatre façons que l'identification peut avoir lieu. J'aime bien cette petite formule-là, c'est assez simple, on peut voir là, tout de suite. Il dit, soit on croit que quelque chose est à moi, parce que vous reconnaissez ça dans votre vie, que quelque chose est à moi, mon vélo, mes émotions, mon opinion, à moi. Si on ne croit pas que quelque chose est à moi, l'identification pourrait prendre la forme de penser que c'est moi. C'est pas à moi, c'est moi. C'est moi, ça, ce corps, ou c'est à moi. Puis ça, si on devient attentif, encore une fois, un esprit attentif, curieux, investigateur, ici, lieu parfait pour faire ça, on va pouvoir voir l'identification, comme un petit singe qui passe d'une branche à une autre, ou d'une liane à une autre, puis on va voir mon opinion, puis là, tout à coup, mon pied, mes souliers, où sont mes souliers? Mon tour de prendre ma douche. Puis après, quelqu'un va dire, mais est-ce que c'est ta douche? Non, non, c'est une douche. Pas la mienne, mais quand c'était ma douche. Ou mon assiette, ou mon. Je mets de l'humour. Ne vous faites attention, vous pourriez penser que c'est très premier degré et qu'il n'y a pas de profondeur. C'est extrêmement profond, ce dont je parle. Et donc, moi, à moi, si c'est pas ça, peut-être que c'est en moi. C'est en moi, ces choses-là. Je ne suis pas les pensées, mais elles sont en moi. Reconnaissez-vous quelque chose comme ça dans votre expérience qui semble être en vous? Puis la quatrième option, il y aurait juste une, apparemment. C'est je suis là-dedans. Alors, Je suis dans le corps. Je suis à l'intérieur du cœur. Je suis en ou c'est en moi. C'est moi ou à moi. Puis toute la journée, probablement qu'on se promène d'un à l'autre, inconsciemment. Et la saisie prend la forme d'un petit attachement, d'une identification, d'une fusion. On se décrit par un truc passager. J'entends, c'est moi qui entends. Et ici, on se met à questionner un peu ça. On se calme un peu, on devient attentif, on laisse les idées préconçues, puis on se rend compte peut-être que l'ouïe a lieu d'elle-même. Qu'il y a le phénomène véritablement de l'ouïe. Peut-être que le « je » était juste une façon d'organiser les choses, mais qu'on est devenu un peu... Le Bouddha disait encore une fois, « J'utilise le « je », mais je connais la limite de ce langage. Je ne suis pas dans la méprise. Je n'ai pas construit un « je » permanent, puis je n'angoisse pas dessus, ou je ne suis pas fasciné par lui constamment. » Wow! En anglais, on dirait « far out ». C'est quoi ici, on dit « perché » ou quelque chose comme ça. Fou. Donc, si vous me suivez toujours un peu là-dedans, une façon qu'on peut faire en temps réel, je vous invite à faire cette observation-là, cette recherche-là en temps réel, puis on va le faire après dans la méditation, dans quelques minutes. Mais on dit, on peut... C'est arbitraire, mais c'est utile. Ça semble être une façon utile de procéder. On pourrait s'entendre, là, tiens, divisons notre réalité complète, immédiate, en cinq. Juste pour vérifier ces cinq aspects de notre existence, puis ça devrait tout inclure. Ça nous vient apparemment du Bouddha. Ça revient souvent dans les textes, cette façon-là d'étudier la réalité en temps réel, en direct. Alors, un des aspects de notre réalité, c'est qu'il y a du monde physique, il y a de la matérialité qui est en train de se produire pour nous. Hein? Alors, par exemple, l'élément de terre, là, la dureté sur les fesses, ou les mouvements du ventre, tout ce qui est du monde physique. Est-ce que vous reconnaissez ça en ce moment un peu? Alors, c'est vivant, là, hein? Il y a des picotements dans les doigts, il y a de la fraîcheur peut-être, ou de la chaleur à différents endroits. Alors ça, c'est une des rivières, on pourrait dire, de notre existence. C'est toujours là. Quand on est un être humain, il y a toujours de la physicalité. Les sens, c'est le rapport au monde physique. Les vibrations sonores, la luminosité, le tactile, ça passe par le goût et l'odorat. Et donc, le Bouddha utilisait l'image de l'écume. Il disait, l'expérience matérielle est constamment changeante. Hein? On est assis, tout à coup, si on se met debout, waouh, ça va être une autre expérience. Un son apparaît, une sensation de douleur dans le corps. On pourrait utiliser l'image de la rivière. Alors là, nous, on a peut-être solidifié l'image du corps. C'est mon corps, c'était mon corps, ce sera mon corps. Donc, à moi, en possédant ou en... s'identifiant d'une façon ou d'une autre. Si on devient un peu conscient, même là en ce moment, peut-être qu'on peut découvrir en fait que c'est une rivière, hein? Que c'est un truc vivant qui est constamment en changement, gonflant, dégonflant, une rivière de picotement, une rivière de pression, ça presse. Si on devient conscient de la pression, c'est pas réglé, hein? Il faut la connaître à nouveau. La connaître, c'est un phénomène qui est vivant, comme... le humming d'un réfrigérateur, par exemple. C'est quelque chose qui passe. On pourrait dire c'est le humming, mais en fait, c'est quelque chose qui est vivant, même s'il est très similaire. C'est quelque chose qui est en train de se dérouler. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, si on devient attentif et on laisse tomber notre image du corps, il est trop comme ceci ou comme cela, ou pas assez comme ceci, comme cela, puis qu'on devient attentif à l'expérience immédiate du corps, pourrait découvrir que c'est quelque chose de vivant. En fait, que c'est la nature. C'est la nature du mouvement, de l'air, la nature de l'eau, la nature du feu, la chaleur. Le Bouddha suggérait que n'y a pas nécessairement de différence entre l'un et l'autre, intérieur et extérieur, que ce sont les éléments à ce niveau-là. Une deuxième rivière qui est en train de se produire constamment, c'est la rivière du plaisir, déplaisir et neutralité. Alors qu'on est assis là, pendant quelques minutes, on va voir des sensations plaisantes apparaître, déplaisantes, des stimulations de toutes sortes, des pensées peut-être déplaisantes ou neutres, ou des sons. Puis donc, si on est assis ici, comme on le fait, 45 minutes sans bouger, il va y avoir une rivière vivante de plaisir et de déplaisir. On pourrait juste s'attarder à ça. Puis voir, ah, c'est vrai, un petit peu d'air rafraîchissant, plaisant. Une idée, ça ne s'arrêtera jamais, cette assise, déplaisante. Donc, une rivière qui coule, qu'on peut pas, à laquelle on peut s'identifier, mon plaisir, etc. Mais elle a peut-être sa vie absolument naturelle. Une autre rivière qui se passe constamment. Vous pouvez, si vous voulez bien la reconnaître, vous pourriez ouvrir les yeux puis regarder autour de vous. En regardant autour de vous, vous allez voir qu'il y a toujours une perception. Il n'y a pas seulement la vue, mais il y a une organisation du monde. Poutres, coussins, couvertures, bleu, rouge, peut-être des gens que vous allez reconnaître, des noms, Patricia, Pascal, homme, femme, mal assis, bien assis. Alors, le regard se promène, puis une organisation du monde, hein, c'est pas un paquet de couleurs, là, de formes dans lesquelles on serait confus. Alors, il y a une rivière qui coule constamment. Vous allez voir dans la marche aujourd'hui, si vous êtes attentif. Le monde s'organise. Dès qu'il y a une sensation, ça dit genou, attention, bas du dos, lombaire, inspiration, ça ne dit pas expiration. Ah, il y a une reconnaissance qui est toujours en train d'avoir lieu. Parfois elle est juste, parfois elle n'est pas juste, mais il y a une organisation du monde. Alors chez un être humain, cette rivière-là coule constamment. On peut s'identifier à ce phénomène-là, on peut aussi reconnaître qu'il est absolument naturel. Peut-être pas si personnel que ça, mais qui est toujours en fonction. Il y a toujours une organisation du monde. Alors que je me promène, je vois, il y a des couleurs qui apparaissent. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Si vous entendez un son, tout de suite, peut-être que la perception va être un peu troublée. Est-ce qu'une voiture, une motocyclette, est-ce un tel oiseau ou un autre? Mais il y a quelque chose qui tout de suite organise le monde. Ici, on n'est pas occupé par tant de choses à faire. Hein. On peut s'arrêter, puis dans l'assise ou dans la marche, devenir attentif à ceci. Comment le monde est toujours organisé pour nous. Il y a toujours ça qui est en fonction. C'est une bonne chose. Ça nous permet de rentrer à la maison le soir, après le travail ou quoi que ce soit. Pas rentrer dans la maison de quelqu'un d'autre. On peut reconnaître. Ça, c'est la mienne. Est-ce que j'ajoute une autre rivière? Une autre rivière qui a lieu, c'est, on pourrait dire, tiens, la rivière des intentions. Alors, par exemple, chez beaucoup d'entre vous en ce moment, il y a l'intention de comprendre. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, donc, il y a quelque chose qui est en fonction, il y a un rapport au monde. C'est, ah, je veux. Et tout à l'heure, il va avoir l'intention de se mettre debout. Ou l'intention d'aller marcher, ou l'intention d'aller prendre un thé, l'intention de prendre, de soulever. Alors, il y a une rivière d'intention qui est toujours là. Ça, c'est un champ très particulier. On est invité à devenir conscient de ça. Aujourd'hui, vous pourriez juste être attentif à ça, l'intention de penser à ceci ou à cela plutôt. Il y a toute une rivière d'intention. Par exemple, moi, quand je fais la marche, si je suis attentif, je vais voir qu'il y a un moment où tout à coup j'ai l'intention de m'arrêter. Souvent, cette intention-là naît au moment où un mur se présente. Hein? Alors je marche, puis tout à coup je me disais, tiens, je vais m'arrêter ici. Je fais cette blague-là qui n'en est pas une, parce que pour montrer que les intentions sont conditionnelles, ils dépendent des conditions. Quand dans la salle à manger, si les conditions sont réunies, il y a plusieurs conditions nécessaires, une fourchette, de la nourriture sur la fourchette. Si je me retrouve dans les conditions où je tiens dans ma main une fourchette et qu'il y a de la nourriture sur la fourchette, l'intention d'amener la fourchette vers ma bouche, il y a des chances très élevées qu'elle apparaisse. S'il n'y avait pas la fourchette ou s'il n'y avait pas la nourriture, l'intention de déplacer ma main vers ma bouche n'apparaîtrait peut-être pas. Encore une fois, ça paraît farfelu, mais souvent on pense que nos intentions sont les miennes, c'est moi qui décide, puis on ne se rend pas compte exactement que c'est assez conditionnel. Que comme il y a l'impatience qui est présente, l'intention de dire telle parole naît. Ce n'est pas absolument personnel. Ah. Comment oses-tu questionner que ce n'est pas moi qui ai mes intentions? Pourtant, souvent, on se couche le soir, on se dit « Pourquoi j'ai dit ceci? » Ou « Pourquoi je n'ai pas parlé? » Les conditions étaient telles que l'intention de ne pas parler est apparue. J'enlève pas le phénomène de la responsabilité, mais en tout cas, élément de recherche. Alors, pendant la journée, vous allez voir qu'il va y avoir l'intention de faire ou de ne pas faire la marche. Et est-ce que ça va être si personnel que ça? Ou quelque chose, un état mental peut-être, va faire naître l'intention? Une dernière rivière qui coule constamment, c'est celle de la conscience. Et là, on est au cœur de l'identification. OK, je ne suis pas les émotions, je ne suis pas les sensations, mais c'est certainement moi qui les connais. Est-ce qu'il pourrait y avoir une toute petite méprise qui crée énormément d'angoisse existentielle? Que je suis la conscience. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un phénomène appelé la conscience qui soit en fonction, ce qui rencontre les sons ou les révèle, ou qui est révélé par elle, par les sons plutôt? Alors la conscience, cette petite chose transparente, chose non, mais phénomène, transparent qui révèle les sons, les sensations, le bien-être, le déplaisir. Est-ce que c'est absolument, essentiellement moi ou est-ce que c'est véritablement présent? C'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Comment oses-tu questionner cette chose? Ben oui, ça va aussi loin que ça, la pratique. C'est pour ça qu'il faut se calmer les nerfs et être très attentif. Alors, on est déjà dans la pratique. Alors, je vous invite à, étant assis, pas essayer d'attraper tous ces phénomènes. C'est un tour très rapide. Mais quand un phénomène se présente, vous pourrez, si vous voulez, juste découvrir s'il y a identification ou non. On n'a pas à défaire l'identification, juste à reconnaître qu'elle est présente. Ah! Ça apparaît comme ma main. Ou plutôt des sensations véritablement présentes. Dans la pratique, on peut employer le langage pour jouer un peu avec ça si on veut. Alors, plutôt que dire « j'entends », de reconnaître qu'il y a l'ouïe. Il y a l'audition. Plutôt que « je suis découragé », si on veut, on peut jouer avec ça. Ah. Il y a le découragement. Le découragement est présent. Ou le calme. Plutôt que je suis conscient de mes pieds, il pourrait y avoir, pour utiliser la formulation, les sensations des pieds sont connues. Juste pour voir ce que ça donne, comment ça influence l'expérience. Il y a de la présence, de l'agitation. Un ami avec qui j'enseigne, très belle instruction, il dit, étant assis, tout en pratiquant, laissez le je être une organisation très légère du monde, de l'expérience. Une façon utile d'organiser le monde. La rivière du corps vivant, la rivière des plaisirs et des déplaisirs, la rivière des perceptions, de l'organisation du monde. Des intentions, la rivière des moments de conscience, conscience d'un son, d'une sensation, d'un état. Que c'est possible de ne pas s'approprier ces phénomènes. Quand la cloche sonne, c'est très intéressant par rapport à ces cinq rivières-là. Alors, on est assis comme ça, et il y a une expérience matérielle. Je dis matérielle, c'est vibration sonore. Hein. C'est plus la même. Ça, tout à coup, oups, on est dans la rivière. Il y avait le silence. Tout à coup, oups, dans la rivière, il y a ce truc-là. Voilà, un son apparaît. Puis, oups, disparaît. Puis, il y a une autre, quelque chose d'autre. En termes de perception, c'est des rivières qui coulent simultanément. Hein. Alors, ça, on reconnaît ces cloches. Hein. Et on peut pas éviter ça. Ça vient avec. Essayez d'arrêter la rivière des perceptions. Bonne chance. En même moment, aussi, il y a une rivière la rivière d'intention. Alors, on était là, avec le genou, attentif au genou. Qu'est-ce que la douleur? Qu'est-ce que la douleur? Et tout à coup, la cloche sonne, et tout à coup, on a l'intention d'ouvrir les yeux, de dégager le corps qui naît. C'est pas venu avant. C'est moi, on pourrait penser, c'est moi. C'est drôle qu'on ait tous à peu près la même intention au même moment. Comme dans le Qigong le matin. Tout à coup, oh, ben tiens, je vais lever mes bras comme ça. Je suis un être indépendant, je fais ce que je veux. Je lève mes bras comme ça. Ah, mon Dieu, mais tout le monde lève ses bras au même moment, de la même façon. C'est intéressant, non? Pourquoi? Ah, c'est conditionnel à quoi? Ben, ce que quelqu'un dise, ça a beaucoup de valeur de lever ses bras comme ça. Comme là, dans quelques moments, plusieurs d'entre nous, on va aller faire une marche lente. Tiens, je vais aller faire une marche lente, aller-retour en allant nulle part. Pourquoi est-ce qu'on va aller faire ça? Ah, parce que tout à coup, on était conditionné, ça a été valorisant. On s'est dit, ah oui, quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur dans la vie humaine, c'est de marcher aller-retour en allant nulle part à un rythme plutôt lent. Et là, tout à coup, on va avoir l'idée, tiens, je vais aller marcher à un rythme plutôt lent en allant nulle part aller-retour. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose du conditionnement là-dedans? Donc, on est venu pour étudier ça. Donc, au moment où la cloche sonne aussi, tout à coup, il y a l'intention de dégager le corps. Puis il y a de la conscience. On a entendu le son. On a reconnu que c'était une cloche. On a senti l'intention de bouger. Hein? La conscience, le Bouddha utilisait l'image du spectacle de magie. C'est le grand spectacle de magie. Il y a un moment de conscience d'un son, le moment de conscience d'un désir de bouger, le moment de conscience de corps qui se déploie. Et le grand spectacle de magie, c'est je. Je. Entends. Je décide de bouger. Alors aujourd'hui, si vous voulez, avec la marche, je ne sais pas si c'est trop complexe comme truc, mais si vous voulez, vous pourriez traverser, faire une traversée en vous laissant connaître la rivière du monde physique. En marchant, ça va devenir très clair. Dureté, légèreté, mouvement, dureté, poussée. Il va y avoir plein de vents frais, partis, etc. Alors, vous allez voir que le corps, vous allez découvrir peut-être que le corps, ce n'est pas une chose. C'est une rivière de sensations. Alors, une traversée, peut-être quelques-unes comme ça. Peut-être une ou quelques traversées, juste à reconnaître la rivière de la perception. En marchant, vous allez voir comment ça va vous indiquer. Pieds, montagne, air frais, luminosité. Frais. On ne peut pas arrêter ça. Le monde va être organisé. À un moment, vous allez entendre le gong. Vous allez reconnaître. Ce ne sera pas. Ça va être précis. Ça va être l'appel à l'assise. Il n'y aura aucun doute. Gong. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça veut dire qu'il faut manger? Est-ce que ça veut dire qu'il faut se coucher au sol? Non, ça va être très naturel. Gong. Méditer. Assis. Donc, vous pourriez faire quelques traversées en étant attentif à ça. Comment le monde est organisé pour vous? Comment c'est impersonnel d'une certaine façon? Les choses apparaissent. Une traversée ou quelques-unes sur la rivière du plaisir des plaisirs. Vous allez voir peut-être des petites bulles de plaisir apparaître, de luminosité ou de sensations sur le corps, ou des petits moments de désagrément, etc. Si vous voulez, vous pourriez vous intéresser toute la matinée, si c'est un champ qui vous appelle, qui vous interpelle, au phénomène des intentions. Par exemple, dans quelques minutes, peut-être c'est déjà vivant en vous. Certains, là, ont l'intention de se lever. Mais culturellement, c'est impossible, parce que quelqu'un avec un microphone parle. mais l'intention, elle est bien vivante. En soi, ou non. Mais il y a un moment où il va y avoir l'intention de bouger. Soyez attentif à ceci. Il y a un moment où on fait la marche, puis tout à coup, on a l'intention de s'arrêter, de tourner, ou l'intention de se sauver. Tisane! Voyez ça, naître et disparaître. Pour les intentions, le Bouddha comparait ceci au tronc du bananier. Il disait, le tronc du bananier est vide en son cœur. Hein. Il n'y a pas de bois solide, dur au centre de cet arbre-là. Il n'y a rien au cœur. Mais il disait, les intentions, c'est un peu comme ça. Tout à coup, je vais me prendre une autre tranche de pain. Tu sais? Puis ça fait comme le bananier, des grandes feuilles, des grandes fleurs, des grands fruits. Puis après que ça a existé, j'ai droit à ceci ou quoi que ce soit, l'arbre tombe au sol après avoir porté ses fruits. Et rien, il est composté. Il n'y avait rien là-dedans, il n'y avait rien au cœur. Voyez votre intention de ceci ou de cela. L'intention d'aller faire ceci ou faire cela. Voyez comment ça apparaît, ça porte des fruits. Puis en fait, après ça tombe au sol, il ne reste plus rien. Comme si peut-être j'ai l'intention de planifier toute ma semaine. Je me dis, tiens, il me reste encore quelques minutes. Je vais planifier toute la semaine au retour. Alors, je vais faire ça, je vais faire ça. Grosse production de bananes. Puis ensuite, tout à coup, boum, je me retrouve ici. Cette intention-là est passée. Puis là, je me retrouve à nouveau. Ah, ce truc-là, il y a une production, mais qui était vide dans son cœur. Ça a passé. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Donc, la nature éphémère des choses, puis le côté qu'il y a peut-être l'apparence de solidité, mais non, au fond, il n'y a rien. C'est momentané, conditionnel, c'est passé. Ce sont des idées comme ça. Alors, essayez pas trop de comprendre ça avec votre mental. Moi, je propose d'essayer dans l'action, de voir dans l'action la nature vivante, dynamique du corps, des intentions, puis de la conscience elle-même, qui révèle ceci, cela, qui se transforme constamment. Bonne journée! Merci. Et si vous avez l'intention de parler, ben notez ça, que l'intention de parler avec quelqu'un d'autre monte en vous. Le silence, donc, est très, très précieux. C'est notre responsabilité, c'est très fragile. Et donc, si vous notez en vous l'intention de parler en dehors des groupes ou des rencontres, notez-le comme une intention. Voyez, si vous ne suivez pas cette intention-là, comment sa nature vide va se révéler. Elle va disparaître. Donc, on n'est pas obligé de suivre chacune de ses intentions.